France Inter. Les heures passeront et la science aura progressé, dit un proverbe latin. Mais dans le cas de l'hydroxychloroquine et du Covid-19, le temps n'arrange rien à l'affaire. Ce traitement utilisé à l'origine contre le paludisme est notamment défendu par le professeur Raoult à Marseille, mais montré du doigt par d'autres scientifiques pour ses effets secondaires. La bataille semble close avec l'étude parue la semaine dernière dans la réputée revue scientifique The Lancet, qui révélait une mortalité en hausse chez les patients traités avec l'hydroxychloroquine. Sauf que cette étude est désormais remise en cause par la revue elle-même et l'OMS a donc décidé de reprendre les essais cliniques. Correspondance à Genève de Jérémy Lanche.
Cette fois, on ne peut pas accuser l'OMS de ne pas réagir à temps. 3 jours après la publication de l'étude dans The Lancet, l'agence suspendait les traitements à l'hydroxychloroquine et le même jour où la revue émet des doutes sur la validité de l'étude, l'OMS fait machine arrière. C'est une victoire pour les partisans de la molécule, comme Didier Raoult, mais la chef scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan, dit simplement que l'hydroxychloroquine ne semble pas dangereuse pour les malades du Covid-19, pas qu'elle est efficace.
We are now fairly confident, not having seen any differences in mortality.
Nous sommes maintenant assez confiants sur le fait que la prise d'hydroxychloroquine ne modifie pas la mortalité chez les patients. Les décisions que nous prenons sont faites en accord avec ce qui se passe sur le terrain. Et ce n'est pas la même chose de réintégrer l'hydroxychloroquine dans les essais et de la conseiller en traitement ou en prévention du Covid-19.
La relance des essais d'hydroxychloroquine relance en même temps les questions à son sujet. Est-ce qu'il s'agit d'un traitement miracle, inefficace ou juste placebo ? La réponse finale ne sera sans doute pas connue avant encore de très longs mois. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et l'agence française du médicament doit également décider dans les jours qui viennent si elle reprend ou non les essais cliniques.
7h04, Agnès Soubiran, la suite du journal et en France de nouvelles manifestations contre les violences policières.
Plusieurs milliers de personnes hier soir rassemblées dans le calme à Toulouse et à Montpellier pour dénoncer le racisme qui tue aussi en France, dénoncer également les méthodes violentes d'interpellation et les discriminations au quotidien vécu par de nombreux jeunes. Alors comment les policiers français vivent-ils cette mise en cause ? Sophie Parmentier a recueilli plusieurs témoignages.
Sur les affiches de recrutement, la police nationale est multicolore. À l'image de la France républicaine, dit un policier. Le racisme dans la police n'existe pas, martèle son directeur général. Mais sur le terrain, la réalité est plus sombre, témoigne Abdoulaye Kanté, policier depuis 20 ans.
Dire que le racisme n'existe pas dans la police, ce serait un mensonge, mais il n'est pas comme celui qu'on veut faire croire. Mais il peut effectivement avoir des comportements déviants. Et je pense que nous, de notre côté, en tant que policiers, on doit dénoncer tout comportement qui sont contraires à nos valeurs républicaines. Quand vous portez l'uniforme, vous devez faire votre travail sans distinction de couleur, de race, de religion.
Ces discriminations raciales existent pourtant, confirme Noa Manoir, policier et auteur du livre « La France doit savoir », discrimination qu'il dit avoir lui-même subie.
J'ai été témoin d'un racisme sournois ou parfois direct émanant de certains de mes collègues policiers. Tous les policiers ne sont pas racistes, l'institution policière n'est pas une institution raciste, mais j'ai constaté des actes, des propos, des attitudes racistes de la part de mes collègues et des attitudes discriminatoires.
Selon les chiffres de la police des polices, il y a eu l'an dernier 30 affaires de racisme sur les 1500 enquêtes traitée par l'IGPN.
Les manifestations continuent aussi donc de l'autre côté de l'Atlantique avec une 9e nuit de colère dans plus de 150 villes. L'officier qui a maintenu son genou sur le cou de George Floyd est désormais poursuivi pour meurtre et ses 3 collègues seront également poursuivis. Dans les rassemblements, les Américains blancs sont de plus en plus nombreux comme a pu le constater Grégory Phillips hier soir à Washington. Reportage.
Devant la Maison Blanche hier soir, une foule compacte et ce cri qui résonne désormais dans toute l'Amérique. Black Lives Matter, les vies noires comptent. Du nom de ce mouvement créé il y a 6 ans, quelques mois après la mort du jeune Trayvon Martin en Floride. À Washington, mais aussi Atlanta, Houston, Los Angeles, de plus en plus de blancs dans les rassemblements. Tara porte un panneau qui dit ceci. Le silence des blancs est de la violence. Si on ne s'indigne pas, dit-elle, du meurtre de ces vies noires, alors nous sommes une partie du problème. On aurait dû descendre dans la rue il y a déjà longtemps. Aux États-Unis, un Afro-Américain a 2,5 fois plus de risques qu'un blanc de se faire tuer par la police. Et trop souvent, les poursuites contre les policiers sont retardées ou abandonnées. Mais cette fois, Tara espère que la justice ira jusqu'au bout. Je suis contente de voir que ces 4 officiers, maintenant, sont inculpés, un pour meurtre, les trois autres pour complicité. Mais j'espère que notre mouvement va continuer et que désormais les policiers n'auront plus d'impunité. Hier soir, jeunes et plus vieux, blancs et noirs, étaient comme en communion à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche, en espérant que leur chant porte jusqu'aux oreilles de Donald Trump. Washington, Gregory Phillips, France Info.
Donald Trump, de plus en plus critiqué, le secrétaire américain à la Défense s'est lui-même déclaré opposé à l'idée de déployer les soldats dans les grandes villes. Son prédécesseur Jim Mattis a également accusé le président américain de diviser l'Amérique.
Retour maintenant en France avec un médecin généraliste poursuivi devant la justice après la mort d'un petit garçon.
Gabin, 22 mois, est mort de faim et de soif en 2013 à Aubusson. Ses parents ont été condamnés à 17 ans de prison. Mais la justice a décidé de poursuivre le médecin famille pour non-assistance à personne en danger, car le praticien a examiné l'enfant à plusieurs reprises avant sa mort sans rien déceler. Camille André.
Je me demande ce que j'ai pu louper chez cet enfant. Lors du procès des parents en novembre, le docteur Vors est appelé à la barre comme témoin. À l'époque, le généraliste qui approche de la retraite reconnaît sans détour s'être trompé.
Là, il y a une erreur patente de diagnostic, bien évidemment, je ne peux pas dire autrement. Surtout que ça s'est fini tragiquement et ça marquera à vie.
À sa mort, le petit Gabin pesait moins de 6 kilos et un mois et demi avant, le docteur Vors l'avait encore ausculté. Il maintient n'avoir rien détecté d'alarmant.
Je ne m'en suis pas perçu parce que l'enfant était toujours très bien tenu quand il est venu me voir. Lavé, propre, avec des vêtements propres. Je n'avais aucun signe physique d'un enfant en souffrance.
Au cours de ce procès, les juges devront déterminer si le docteur Vors s'est abstenu volontairement d'aider Gabin. Savoir et ne pas agir, c'est ça la non-assistance à personne en péril. Et pour maître Yves Crespin, l'avocat d'une des parties civiles, l'association L'Enfant Bleu Enfance Maltraitée, ça ne fait aucun doute.
Le médecin a vu Gabin à 7 reprises. S'il avait été un peu vigilant, il se serait rendu compte qu'entre 6 mois et 10 mois, l'enfant avait perdu du poids. C'est-à-dire qu'un an avant, déjà, il y avait des signes qui étaient alarmants.
Le docteur Vors risque jusqu'à 7 ans de prison.
Reportage de Camille André de France Bleu Creuse. Plus de 8 millions de salariés au chômage technique, plus de 6 millions de demandeurs d'emploi, du jamais vu en France. Emmanuel Macron et Édouard Philippe réunissent cet après-midi syndicats et patronats pour tenter de trouver des solutions dans ce contexte inédit. Nous y reviendrons dans le journal de 8h avec notamment les propositions de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Ils sont 600 000 à avoir téléchargé l'appli Stop Covid. Chiffre communiqué par le secrétaire d'État au numérique Cédric O, qui salue un très bon démarrage pour cet outil controversé lancé avant-hier. Outil qui permet d'être alerté en cas de contact prolongé avec une personne malade. Une technologie qui s'appuie sur la fonction Bluetooth sans géolocalisation. Mais des réticences subsistent, comme a pu le constater Maureen Suignard.
Coralie, Vincent et Mamadou, trois amis habitant en région parisienne, et tous contre cette application, en tout cas au premier abord.
De savoir que les autres l'ont eu ou pas, enfin, j'en vois pas l'intérêt.
J'ai peur en fait que ça fasse un effet d'angoisse et de panique plus qu'autre chose.
Le fait d'être suivi, tracé, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Comment ça marche, etc., je me suis jamais renseigné.
Mais finalement, Mamadou se laisse tenter.
Allez, on y va. Stop Covid, comment télécharger l'application?
Vous serez informé si vous avez été à proximité d'un utilisateur testé positif au Covid.
Ouais, mais bon, donc ça veut dire que finalement, il faut aussi avoir un recensement de toutes les personnes
autour de vous.
C'est pas comme dans les autres pays où le dépistage est obligatoire.
Il est obligatoire pour tout le monde.
Ici, il est facultatif.
On va pas savoir, en fait. Il a eu il y a combien de temps? À part nous créer une psychose et nous dire, ah ben peut-être que je passe à côté de quelqu'un et être paniqué, je vois pas, en fait.
Vincent, lui, s'inquiète de partager des données liées à sa santé. Mamadou n'est pas vraiment convaincu par la confidentialité affichée de l'application.
Je ne vais pas aller voir le plus d'infos parce que j'en suis sûr qu'en lisant entre les lignes, rien n'est protégé.
Mais il se fera tester s'il est en contact avec un malade et qu'il est alerté.
J'ai envie de voir mes amis encore, j'ai pas envie de leur faire porter un risque, etc. Donc j'irai tout de suite et je le garde pour protéger les autres.
Mamadou qui pourra, selon Stop Covid, supprimer toutes les informations enregistrées dès qu'il le souhaite.
Le virus qui continue de circuler et de faire des victimes en France, la barre des 29 000 morts a été franchie hier et 352 nouveaux cas de contamination enregistrés. Le nombre de patients en réanimation, lui, continue de baisser. Ils étaient 1210 hier soir. En Amérique latine, la situation reste très préoccupante. 1349 morts en 24 heures au Brésil, chiffre record. Et au Mexique, le nombre de morts quotidiens a doublé avec plus de 1000 décès enregistrés hier. Alerte aux orages dans le sud-est de la France. Les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse en vigilance orange jusqu'en milieu d'après-midi. Hier soir, les orages ont frappé l'Île-de-France avec 64 chutes de foudre à Paris en une heure et 500 éclairs dans le ciel du Val-de-Marne. Enfin, c'était le grand soir hier à la Ménardie, restaurant gastronomique tout juste étoilé au cœur du Périgord noir à Salignac-et-Vigue au nord-est de Sarlat. Emmanuel Claverie s'est glissé dans la cuisine à quelques heures du premier service.
Un masque sur le visage, Mathieu, le chef de partie en charge de la cuisson des viandes et des poissons, peaufine l'une des entrées du soir.
Là, je suis en train de préparer le condiment au foie gras et au miso qui va accompagner le foie gras de notre menu dégustation.
Comme toute la brigade, le jeune cuisinier est ravi de pouvoir enfin retravailler.
Ah oui, avec impatience. Pour reprendre les habitudes et pas rester chez soi et tourner en rond.
Le problème, c'est que maintenant le temps presse. Le chef étoilé Adrien Soro aurait aimé pouvoir mieux anticiper sa réouverture.
On est juste un tout petit peu déçu qu'on nous ait prévenu 4 jours à l'avance parce que du coup, nous, on est une jeune entreprise. Ça fait un an qu'on a démarré. Donc, bien sûr, on saute sur l'occasion. Dès qu'on a pu ouvrir, on ouvre. Mais derrière, ça demande une logistique. Encore ce matin, j'étais à 5h à Brive parce que c'était lundi de Pentecôte, férié, pour avoir tous les produits nécessaires. C'était rigolo.
T'as quoi dedans ? Carottes, oignons, échalotes. T'oublieras pas les petites bédionnières.
L'équipe n'a disposé que de quelques jours pour élaborer sa nouvelle carte et mettre en place les mesures sanitaires. Pas de quoi entamer la motivation d'Adrien Soro.
On s'adapte très rapidement à toutes les situations, ça fait partie prenante de notre travail. On est passionné, on adore ce qu'on fait, on ne vit que pour ça. Donc on s'adapte toujours et on sortira le même niveau en permanence.
Le reportage d'Emmanuel Claverie de France Bleu Périgord et la Ménardie propose un menu spécial fête des mères dimanche. Au menu, moelleux de langoustine, homard breton, fleurs de courgette, pintade aux truffes et fraises en crémeux. Un menu à 75 euros à l'île.
Et on ne compte pas pour la fête des mères.
Évidemment.
Merci Agnès Soubiran.